Bonjour à tous. Donc, je suis ravie de vous accueillir sur ce débat qui va avoir pour thème 2012, des prophéties de fin du monde aux stratégies de transition énergétique. Pour discuter de ce thème, nous accueillons sur cette table ronde tout d'abord Didier Jamais, qui est journaliste scientifique, conférencier, éditeur et rédacteur en chef du site internet Ciel des Hommes, donc un site qui notamment traite de l'actualité spatiale. Il est également auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation et il est co-auteur donc tout récemment avec Fabrice Motet, qui est un astrophysicien, de 2012, Scénario pour une fin du monde, donc la fin du monde d'un point de vue scientifique. Qu'est-ce qui est plausible ou pas, il nous en parlera. Nous accueillons également donc, à côté de lui Marc Jedlicka, qui lui est directeur de ESPUL, qui est une association qui a été créée en 1991 et qui est notamment à l'origine du développement du photovoltaïque en France et qui, par ses travaux, a su acquérir une reconnaissance institutionnelle à la fois au plan national et international. Par ailleurs, il est également l'un des auteurs du livre Manifeste Négawatt, Réussir la transition énergétique. Donc, il nous parlera notamment de ces problématiques. Et enfin, nous accueillons Michel Henrich, qui est donc député maire d'Épinal et qui donc, est notamment maire d'Épinal depuis 1997. Député depuis 2002 et qui a une longue carrière politique puisqu'il a des mandats locaux depuis 1983 et lui va pouvoir notamment nous éclairer sur sa vision d'élu local et les possibilités d'action que l'on peut avoir lorsqu'on est finalement représentant au niveau des institutions. Alors, pour commencer, on va un petit peu dérouler cette table ronde en partant du titre. Donc, 2012, des prophéties de fin du monde. Donc, Didier Jamais, quelles sont les catastrophes naturelles, puisqu'on nous dit là, 2012, en théorie, tout va se terminer, c'est la fin du monde. Est-ce que c'est plausible ou pas? Et surtout, quelles sont les catastrophes qui pourraient réellement frapper la Terre et faire disparaître l'humanité?
Bonjour et merci Sylvie pour cette introduction, effectivement. Alors je crois que, avant de s'intéresser aux causes finalement qui pourraient, enfin aux phénomènes qui pourraient provoquer une catastrophe majeure et globale et donc remettre en cause la vie sur Terre et en particulier l'espèce humaine, je crois que ce qui est important c'est de montrer d'où cela vient, d'où vient cette date de 2012 et plus particulièrement du 21 décembre 2012. Ça nous ramène en fait à une civilisation qui est la civilisation Maya, qui a connu son âge d'or entre le 6e et le 9e siècle de notre ère. C'était d'excellents astronomes. On a mis beaucoup de temps en Occident avant d'arriver à des calendriers aussi précis que ceux qu'ils avaient réussi à déterminer, donc au tout début de ce qui était pour nous notre ère. Et donc ils avaient acquis un savoir astronomique très, très, vraiment assez étonnant. Et parallèlement, je dirais, à cette activité qu'on pourrait qualifier de scientifique, hein, au sens plein du terme, ils avaient également une vie spirituelle et religieuse. Et ils avaient notamment une croyance qui était que le Soleil était une entité d'essence certes divine, mais mortelle. Et ils avaient pour ça un calendrier, mais qu'il faut prendre, je dirais, au sens métaphorique du terme, en tout cas, je dirais, symbolique. Et ce calendrier était le calendrier de l'espérance de vie du Soleil. Pour les Mayas, le Soleil avait une espérance de vie de 5125 ans. Et lorsqu'on prend le point origine de ce calendrier Maya, bien spécifique, parce qu'il y a plein d'autres calendriers Mayas, mais liés à la vie du Soleil, eh bien on arrive au stupeur, au 21 décembre 2012. Alors, il faut, je pense qu'il ne faut pas accorder plus d'importance que ça à cette date qui, pour eux, était symbolique, mais il faut se replacer dans le contexte, c'est-à-dire que eux ont fait cette prédiction il y a plus d'un millier d'années, donc ils se sentaient très, très peu concernés, et pour eux, c'était un futur lointain dont il ne s'imaginait évidemment jamais être témoin, bien entendu. Donc, cette date du 21 décembre 2012, qu'est-ce qui devrait se passer d'après les Mayas? Eh bien, le soleil connaîtra sa fin et tout finira dans un grand tremblement de terre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, c'est la mort du cinquième soleil pour les Mayas, mais au calendrier de l'espérance de vie du soleil. Pour les Mayas, le soleil avait une espérance de vie de 5125 ans. Et lorsqu'on prend le point origine de ce calendrier maya bien spécifique, parce qu'il y a plein d'autres calendriers mayas, mais liés à la vie du soleil, eh bien on arrive au stupeur, au 21 décembre 2012. Alors il faut, je pense qu'il ne faut pas accorder plus d'importance que ça à cette date qui pour eux était symbolique, mais il faut se replacer dans le contexte, c'est-à-dire que eux ont fait cette prédiction il y a plus d'un millier d'années, donc ils se sentaient très très peu concernés, et pour eux c'était un futur lointain dont ils ne s'imaginaient évidemment jamais être témoins, bien entendu. Donc cette date du 21 décembre 2012, qu'est-ce qui devrait se passer d'après les Mayas? Eh bien, le soleil connaîtra sa fin et tout finira dans un grand tremblement de terre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui c'est la mort du cinquième soleil pour les Mayas, mais auparavant il y en a eu quatre autres. Et à chaque fois, la vie a repris le dessus. Donc je trouve que c'est assez intéressant j'oserais presque dire comme intuition, c'est-à-dire que quand j'entends parler de ces cinq soleils, ça me fait penser aux cinq grandes crises biologiques que la vie a connues depuis on va dire environ 500 millions d'années. Et alors pour les Mayas, c'était le soleil de Jaguar, où en fait, ceux dont des jaguars étaient venus avaient dévoré les humains. Il y avait ensuite eu le soleil d'eau, qui c'était assez paradoxal pour un soleil, mais il s'était terminé dans un grand déluge. Et le soleil de vent, évidemment, l'ouragan, la tempête. Et je dois en oublier un. Oui, le soleil de feu, qui s'était lui aussi terminé dans un grand incendie. Donc on voit bien qu'en fait, c'est une... Qu'est-ce que les Mayas voulaient nous dire avec ces différents soleils, ces successions des soleils? C'était une façon de conjurer tous les grandes catastrophes naturelles auxquelles ils avaient pu être soumis, ou toutes leurs grandes peurs, et finalement de les exorciser par le biais de rites très précis qui étaient destinés à apaiser ces divinités. Rites qui passaient d'ailleurs par des sacrifices humains au besoin. Comme quoi, effectivement, ils ne lésinaient pas devant certains moyens. Alors, tout ça pour dire que qu'est-ce qui nous est promis pour le 21 décembre 2012? Alors, si vous êtes, de religion maya, vous avez parfaitement le droit de croire que tout va finir dans un grand tremblement de terre du fait d'un alignement avec le centre de la Voie lactée. Ce qui est vrai d'ailleurs, le 21 décembre 2012, nous serons le Soleil, la Terre et le centre de la Voie lactée, c'est-à-dire cette grande galette d'étoiles de 100 milliards d'étoiles au sein de laquelle nous nous trouvons, enfin nous on se trouve plutôt en banlieue d'ailleurs de cette galaxie. L'alignement sera parfait. Or, il se trouve qu'il est parfait déjà depuis environ le milieu des années 80 et qu'il va le rester encore quelques années. Et je dirais que la date à laquelle il était le plus parfait, c'était 1998. Et bon, vous êtes comme moi, vous n'avez pas constaté de grandes catastrophes majeures, sauf peut-être si vous êtes fan de football brésilien, puisque là, le Brésil a perdu 3-0 contre la France. On peut comprendre que pour ces gens-là, c'était la fin du monde. Mais voilà, il faut reconnaître que c'était quand même assez anecdotique. Donc, alors, qu'est-ce qui, malgré tout, pourrait nous arriver le 21 décembre 2012? Imaginons que les Mayas, finalement, aient eu raison, aient eu une espèce de prescience, par quel moyen, ça, on se le demande, mais qu'est-ce qui pourrait encore, malgré tout, nous arriver comme mauvaise nouvelle? On est donc à peu près à 6 mois maintenant de l'échéance. Par exemple, on pourrait découvrir là, tout à l'heure, dans un observatoire d'Australie où il fait nuit là pour le moment, eh bien un petit objet à peu près insignifiant, mais qui semble se déplacer très vite sur le fond du ciel. Et ça, c'est un astéroïde. Donc, un astéroïde, il faut savoir qu'il en est tombé régulièrement au cours de l'histoire de la Terre. Il en est même tombé, de mémoire d'homme, puisque en 1908, On ne sait pas trop si c'était une comète ou un astéroïde est tombé en Sibérie, dans la Tunguska, et ça a rayé de la carte absolument tout dans un rayon de 20 km. Ça a couché, bon, c'était que des arbres, ça n'est pas tombé dans l'eau, c'est heureux aussi, puisque ça aurait déclenché un tsunami considérable. Donc je dirais qu'à cette époque-là, en tout cas en Europe continentale, on a eu de la chance, parce que c'est tombé dans une région relativement inhabitée, mais ça se trouvait à la même latitude que Londres, en fait. Hein. Donc quelques heures après, oui, enfin même une heure après, on aurait eu un désastre considérable dans le... Je dirais, bon, alors je parlais d'Europe continentale, ça aurait été l'Angleterre, mais bon, ça ne serait pas passé inaperçu quand même pour les ça aurait modifié la face de l'histoire, c'est absolument évident. Donc voilà, on est encore, je dirais, dans un intervalle de temps où on peut découvrir un objet en trajectoire de collision avec la Terre. Cela dit, ça ne peut pas être un très gros astéroïde, puisque les gros astéroïdes comme ceux dont on pense qu'ils ont donné le coup de grâce aux dinosaures mesurent dans les 10 km de diamètre. Et ceux-là, l'intérêt de leur taille, c'est qu'on les voit venir de loin. Et donc ça, on est certain qu'il n'y en aura aucun en trajectoire de collision avec nous pour cette date-là. Autre hypothèse, je dirais, est-ce qu'éventuellement un supervolcan pourrait se réveiller ? Ça, c'est un. On sait que déjà que des supervolcans ont eu... ont failli avoir notre peau, hein, il y a 73 000 ans. C'est assez étonnant comme données, mais... En comparant l'évolution de la génétique des populations et en la corrélant avec des événements volcaniques majeurs de l'histoire, on a retrouvé une corrélation entre une sorte de goulet d'étranglement génétique, où en fait, il semblerait que nous venions d'un petit groupe de survivants d'il y a environ 70 000 ans. Et ce que l'on remarque à peu près dans la même période, enfin aux erreurs de datation près, c'est que, eh bien, il y a 73 000 ans, il y a un volcan qui est entré en éruption en Indonésie et dont le sommet s'est entièrement volatilisé. Et c'était un sommet considérable puisqu'il faisait 100 km de long par 30 de large. Et tout ce qu'il y avait au-dessus, c'était des millions et des millions et des millions de mètres cubes de roches. C'est volatilisé en poussière dans l'atmosphère et par le jeu de l'atmosphère, c'est finalement, comment dire, a plongé la planète dans un hiver très très long de plusieurs mois qui a coupé net à la base la chaîne alimentaire. Donc là encore, je serais tenté de vous rassurer, aucun supervolcan, et ils sont surveillés de près, ne montre de signes d'éruption imminente. On sait maintenant que ce sont des processus qui prennent extrêmement, extrêmement lents, ce sont des remontées de panache de magma volcanique très très lentes. Alors, même si on est relativement désarmé face à ce genre d'événement, on sait, et ce dont en revanche on est certain, c'est que d'ici quelques dizaines de milliers d'années, on est certain que l'espèce humaine sera confrontée à un problème volcanique majeur. Bon, ça nous laisse encore de la marge, mais pour le 21 décembre 2012, globalement, moi, je suis plutôt confiant et je peux vous souhaiter par avance une excellente année 2013.
Merci beaucoup, Didier Jamais. Alors... Après avoir vu ces différents scénarios, il y en a un en tout cas qui ne va sans doute pas provoquer la disparition de la Terre, mais qui en tout cas peut avoir une incidence très forte sur les populations humaines qui l'habitent, c'est le réchauffement climatique. Et là, je voulais poser une question à Marc Jedliska. Donc, quel est ce problème de réchauffement climatique ? Et en ce moment, on entend beaucoup parler de l'empreinte carbone pour aller vers un monde zéro carbone. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça et qu'est-ce que c'est que la transition énergétique ?
Alors, le changement climatique, c'est pas la fin du monde la semaine prochaine ou l'année prochaine. Néanmoins, c'est une modification très profonde de nos modes de vie parce que déjà aujourd'hui, les scientifiques nous disent qu'à horizon 2050, on a une moyenne température moyenne de la Terre qui va augmenter de 2%. Ça, c'est déjà ce qu'on est certain qui va arriver. Ça ne veut pas dire qu'on va mettre un t-shirt en été. En hiver, ça veut dire qu'on va complètement changer de mode de vie. L'agriculture, par exemple, ne va pas se passer de la même manière. Dans le passé, on n'a jamais eu de changement aussi rapide à des niveaux de température moyenne de la Terre de ce niveau-là. On a eu dans l'autre sens, la période de glaciation, c'était moins 4 ou 5 degrés. Il n'y avait pas de... La Méditerranée n'existait pas. On passait à pied sec d'Angleterre en France parce que le sol était gelé. Et on ne pouvait pas faire de l'agriculture en France parce que c'était le permafrost, comme on le connaît au nord de la Sibérie actuellement. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre extrêmement au sérieux et qui est aujourd'hui l'enjeu, c'est de savoir est-ce qu'on va maintenir à ces 2 degrés centigrades qui restent, on va dire, vivables. En gros, on aura le climat, enfin en tout cas pour l'Europe, les modèles, alors c'est très compliqué parce que les modèles scientifiques sont très divers, mais un des plus probables, c'est qu'on aurait le climat de Barcelone à la hauteur de Lyon, sans la Méditerranée. Ça veut dire qu'on aurait des hivers extrêmement chauds, etc. Ça veut dire que les arbres qu'on plante aujourd'hui, il faut tenir compte de ce vécu-là. Ils verront cette époque-là. Donc déjà, c'est quelque chose qui est déjà acquis. Après, l'enjeu pour nous, c'est de savoir est-ce qu'on est capable, l'humanité dans son ensemble, de maintenir ce changement climatique dans cette limite-là, qui est déjà très difficile, ou est-ce qu'on va aller vers 4, 5, 6 degrés, où là, c'est un changement complet, où la vie sur Terre, pour l'être humain en tout cas, alors il y a tout un tas de bestioles qui survivront très certainement, c'est pas la fin du monde, c'est la fin de notre mode de vie sur Terre. C'est ça l'enjeu. Alors, contrairement aux astéroïdes ou aux phénomènes, on va dire, astrophysiques, etc., là, on est quand même sur un changement dont la cause unique est bien cernée, c'est nous-mêmes. Ce sont nos comportements, ce sont nos usages, nos habitudes. Et ce sont nos habitudes, notamment, de consommation d'énergie dans un système qui est basé sur ce qu'on appelle les ressources fossiles ou minérales, donc des systèmes de stock, hein, c'est le pétrole, le gaz et le charbon, plus aussi l'uranium. Alors l'uranium n'est pas de la même origine, mais étant quantité limitée sur Terre, il pose d'autres problèmes de changement climatique, en tout cas pour les, ce qu'on appelle les énergies fossiles. Alors ce sont des énergies qui sont sous nos pieds, hein, ça s'est constitué au fur et à mesure du temps, c'était pas là au moment où la Terre s'est créée, contrairement aux métaux par exemple. Ce sont la source de ces énergies-là, en fait, c'est le soleil, grâce à la biomasse, qu'on appelle la biomasse, c'est-à-dire qu'au début des temps, alors il n'y a pas quelques milliards d'années, puisque la Terre a 4 milliards d'années, mais il y a quelques centaines de millions d'années, si je ne m'abuse, c'était invivable, on n'aurait pas pu respirer avec nos poumons, il y avait du carbone de partout, et en fait, sous l'action du soleil et de ce qu'on appelle la biologie, hein, donc on a vu apparaître des espèces vivantes, d'abord végétales, qui ont capté ce carbone. Parce qu'un végétal qui pousse, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il capte le carbone. Hein, c'est ce que fait le bois. Le charbon de bois, ça vient de là aussi. Enfin, le mot charbon, il vient de là. Donc, il capte ce carbone et puis l'a gardé sous terre. Et au fur et à mesure, ça s'est passé sur des centaines de millions d'années, des problèmes de pression, de chaleur, etc. Ça s'est cette biomasse, qu'on appelle la biomasse, s'est transformée petit à petit, alors d'abord en tourbe, puis en charbon, en lignite, en pétrole, en gaz, etc. Et sagement resté sous terre. C'est ce qui a permis aux animaux dotés de poumons, aux poissons qui étaient dans l'eau, de sortir et de pouvoir respirer. Donc c'est quelque chose qui a été indispensable à notre apparition sur Terre. Et aujourd'hui, ce qu'on a fait depuis qu'on a découvert ces éléments-là, comme ils sont pleins de carbone, ils sont aussi pleins d'énergie. On les brûle et on a, c'est vrai, quelque chose d'absolument extraordinaire. Un litre de pétrole contient une énergie qui est très difficile à reproduire autrement. Et bien, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on déstocke, on brûle tout ça. Alors, on rejette le carbone dans l'atmosphère. À terme, si on rejette tout, ben, on ne pourra plus respirer. Mais avant même qu'on puisse plus respirer, c'est bien avant, on ne pourra plus vivre parce qu'on va augmenter la température par des phénomènes d'effet de serre, de gaz qui sont trop en présence de trop grand nombre dans l'atmosphère. Donc voilà, le cycle est bien là, on le sait, c'est l'origine. Et donc aujourd'hui, c'est notre responsabilité collective d'avoir créé cette situation-là. Il ne faut pas se plaindre d'autres choses. Et maintenant, c'est encore plus notre responsabilité de faire en sorte d'arrêter ce qui est quelque chose d'invivable au sens propre du terme pour l'avenir de l'humanité, avec des solutions. Alors là, c'est ça aussi l'avantage, on va dire, de ce type de problème, c'est qu'on a bien cerné le problème, mais on a aussi aujourd'hui des solutions que nous avons essayé donc d'écrire dans le manifeste Négawatt, qui sont des solutions éprouvées, parce qu'elles sont mises en œuvre dans un certain nombre d'endroits. On va dire qu'on peut résumer en trois grands chapitres. Un, ce qu'on appelle la sobriété, nous, dans le Négawatt, ça veut dire que ce sont les comportements, les choix, arrêter de faire n'importe quoi, arrêter de prendre sa voiture pour aller chercher le paquet de cigarettes au bout de la rue, arrêter de vouloir être en t-shirt en plein hiver dans sa maison, etc. Donc des comportements individuels, c'est l'individu qui est en jeu, mais aussi collectivement, dans la famille, à la maison, au travail, dans la collectivité locale, partout où on vit, de faire des choix de comportements quotidiens et des choix aussi d'achat. On ne va pas acheter quelque chose qui ne sert à rien et qui consomme beaucoup, etc. Ça, c'est la sobriété. La deuxième étape, c'est l'efficacité. Là, c'est l'ingénieur qui intervient, qui va améliorer le rendement du moteur, qui va isoler la maison, etc. Donc des technologies, on va dire, qui vont avoir un certain coût qu'il va falloir mettre en œuvre, mais on va avoir une rentabilité à la fois énergétique et économique. Donc deuxième étape. Et puis troisième étape, mais qui vient vraiment en troisième, c'est comment produire autrement notre énergie, parce qu'on aura toujours besoin d'énergie. Pourquoi ? Parce que l'énergie, c'est la vie réciproquement, donc on a toujours besoin d'énergie. Il suffit de bouger le petit doigt, consomme de l'énergie. Et donc il faut trouver d'autres solutions, des solutions durables, au double sens du terme, qui durent longtemps et qui sont conformes au développement durable. Et bien pour ça, on a quelque chose qui est extraordinaire, justement. C'est l'origine de toutes nos énergies, c'est le soleil, qui n'est rien d'autre qu'une centrale nucléaire de fusion. Ce qu'on veut faire à ITER en France, ça coûte dizaines de milliards d'euros, mais qui ne marche pas, qui ne marchera probablement jamais. Eh bien, la nature l'a fait depuis l'âge des temps, depuis des milliards d'années, et il est là pour 4 milliards et demi d'années. Donc, l'essentiel des sources d'énergie d'hier de l'humanité, et l'humanité a vécu depuis son origine grâce à ces énergies-là, ne serait-ce que l'alimentation, le bois, etc., le vent des voiliers, eh bien, c'est les mêmes sources qu'on a à notre disposition. On est sûr qu'elles sont là, on est sûr qu'elles maintiennent l'état de la planète en bon ordre. Eh bien, la différence d'avant, c'est qu'on a les technologies pour les exploiter. Ces technologies sont au point. Alors, il y en a qui font encore continuer la recherche, c'est pas tout gagné, etc. Mais en tout cas, on sait à peu près où on va. Le photovoltaïque en fait partie, mais c'est loin d'être le seul. Il y a une palette de technologies aujourd'hui tout à fait au point. Donc, il n'y a plus qu'à. Et il n'y a aucune raison de retarder. Plus on prendra de temps à se décider à aller dans ce sens-là, plus ce sera compliqué, cher, et moins on aura de chance, plus on aura de chance de ne pas réussir, on va dire. Donc, voilà notre message. Mais c'est un message d'espoir, d'optimisme, pour éviter une catastrophe que nous avons nous-mêmes créée.
Merci beaucoup, Marc Lisca. Alors, justement, ça permet de faire une transition très intéressante, puisque vous avez abordé le problème des comportements individuels dans l'entreprise, mais aussi dans la collectivité. Michel Henrich, comment un élu peut-il intervenir justement sur ces questions de zéro carbone, de transition énergétique? Comment on fait? Quelles sont les marges de manœuvre? Et quels sont les exemples de terrain, par exemple, que vous pouvez donner? Parce que je sais qu'il se fait des choses ici, à Épinal ou dans la région des Vosges.
Oui, alors effectivement, je crois que les élus ont un rôle très très important à jouer, un rôle de sensibilisation. Vous évoquiez tout à l'heure l'évolution climatique. En moins de 100 ans, en Lorraine, la température a gagné 1 degré. La température moyenne a augmenté de 1 degré. Nous récoltons les mirabelles 15 jours plus tôt qu'il y a 100 ans. C'est une image, mais c'est une réalité. Alors, l'élu, effectivement, il peut intervenir. Alors, par exemple, si je prends mon cas personnel, je me suis un peu mis la pression tout seul en signant la Convention des maires. La Convention des maires, c'est une convention qui est signée au niveau européen et dans laquelle nous nous engageons à aller au-delà des 3 fois 20. C'est-à-dire, les 3 fois 20, c'est d'ici 2020, réduire de 20% la consommation d'énergie, réduire d'ici 2020 de 20% l'émission de gaz à effet de serre et d'ici 2020 aller à 20% d'énergie renouvelable minimum. Donc la Convention des maires, c'est d'aller au-delà chaque fois, s'engager à aller au-delà. Alors comment faire sur un territoire? Alors sur un territoire, on ne s'est pas limité à l'action d'une ville. Je préside une structure qui s'appelle un schéma de cohérence territoriale, un SCOT. Alors pour le moment, ces SCOT ce sont des documents d'orientation en matière d'urbanisme qui interviennent en gros sur 4 thématiques, c'est-à-dire pour un urbanisme qui concerne d'une part l'habitat, le transport, l'économie et aussi les zones naturelles à protéger. Ce sont à peu près les 4 thématiques qui sont traitées dans un SCOT. Et je dois dire qu'à partir de 2016-2017, le Grenelle a prévu la couverture totale du territoire par des SCOT. Donc, à travers ces structures, nous avons essayé de raisonner sur un urbanisme durable, c'est-à-dire de l'habitat beaucoup plus regroupé, et sur un transport durable aussi, donc un habitat plus regroupé. Alors, plus regroupé physiquement, les maisons aussi accolées, enfin, moins d'utilisation d'espace. Le territoire du SCOT des Vosges centrales fait 12 000 km², et c'est exactement ce qui est consommé et urbanisé tous les 2 ans dans un pays comme la France. C'est-à-dire que tous les six ans, nous urbanisons un département de la taille des Vosges. Pour vous situer à peu près l'échelle de ce qu'est sur quelle superficie agit un SCOT. Et alors à travers ce SCOT, donc on a pris des mesures en matière d'urbanisme, pour limiter la construction, la consommation des espaces, et ensuite nous sommes allés plus loin, nous avons décidé de mettre en place un plan climat. Alors avant de faire ce plan climat, il fallait faire un diagnostic, et nous avons donc mesuré l'émission des gaz à effet de serre sur le territoire, et l'on se rend compte que le premier émetteur de gaz à effet de serre, c'est le transport individuel des personnes. Ça représente 22% des gaz à effet de serre, que le logement représente à peu près 20% d'émissions des gaz à effet de serre. Donc nous pouvons principalement agir sur ces deux leviers, sachant que l'industrie se situe plutôt à 13%, contrairement à tout ce qu'on aurait pu d'ailleurs imaginer. Donc le premier vecteur sur lequel nous pouvons agir, donc c'est une sensibilisation du public. Nous le faisons à travers des conférences qui sont organisées régulièrement. Nous le faisons à travers des voyages que nous organisons dans des régions qui sont plus exemplaires, comme le Vorarlberg par exemple. Et nous le faisons aussi de façon plus concrète, notamment dans un un territoire où 60% des logements datent d'avant 1975 et qui sont donc souvent mal isolés. Nous avons par exemple fait une thermographie aérienne de l'ensemble de l'habitat et chaque habitant peut se rendre compte sur les images qui ont été réalisées si son immeuble est isolé ou pas. Et derrière, nous mettons en place des aides à l'isolation. Et derrière également, parce que je ne vais pas être trop long, mais nous avons développé simultanément une grappe d'entreprise que nous avons intitulée Green Valley et qui conçoit, on a fait venir des entreprises qui conçoivent de nouveaux produits isolants à base de ouates de cellulose ou de fibres de bois. On développe à côté toute une activité économique également qui va de pair, c'est ce que vous y est, ce que nous faisons tout à fait. Nous avons là un potentiel fantastique de développement de l'économie locale, notamment dans une région aussi boisée que la nôtre, et le développement d'une filière bois. Et puis nous avons donc des possibilités d'aide apportées aux habitants en fonction des travaux qu'ils font. Nous sommes assez stricts d'ailleurs sur les critères que nous imposons. Et ensuite, on a des actions exemplaires que doit mener la collectivité. Par exemple, dans une ville comme la nôtre, nous avons mis en place un réseau de chaleur, chaufferie bois de 16 km, de presque 9 MW, qui chauffe l'équivalent de 11 000 logements, qui diminue par exemple de 10 000 tonnes annuelles l'émission de CO2. Et nous envisageons d'ailleurs d'en construire une deuxième, exactement de la même taille, pour chauffer une autre partie de la ville. Et puis, nous travaillons également sur tout ce qui peut toucher à la précarité énergétique. Vous savez qu'aujourd'hui, on est très vite en précarité énergétique. Des gens qui ont de bas revenus, la précarité énergétique se définit à partir du moment où l'on dépense plus de 10% de sa ressource en dépenses d'énergie. Et nous mettons en place des programmes d'accompagnement des particuliers qui se trouvent ou qui seraient près de la précarité énergétique ou qui le sont, pour qu'on les aide à mieux isoler, par exemple, leur habitat, entre autres. Et nous mettons aussi en place des conseillers d'économie, en économie d'énergie, que nous mettons à disposition des collectivités. Chaque collectivité fait une analyse particulière de l'état de ses bâtiments en matière de consommation d'énergie. Et nous mettons aussi en place pour le grand public des espaces info-énergie que nous finançons pour informer le public. Donc il y a je ne peux pas tout vous citer, toutes les actions qui sont menées, mais il y a une grosse opération de sensibilisation, des conférences, etc., et des moyens mis derrière pour permettre d'accéder à cette diminution de consommation d'énergie, de limitation de gaz à effet de serre, entre autres.
D'accord. Merci beaucoup. Michel Henry, justement, vous avez abordé un point assez intéressant et je voulais que Marc Gélisca puisse réagir dessus. C'est le point, justement, des nouveaux secteurs économiques, de nouvelles perspectives de développement qui peuvent être impulsées par toutes ces nouvelles énergies. Et est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Oui, bien sûr. Alors d'abord, quelque chose qu'il faut bien comprendre, ce dont j'ai parlé, la sobriété, l'efficacité et les énergies renouvelables, elles n'existent pas en l'air, elles sont ancrées dans des territoires. Pourquoi ? Parce que la sobriété, c'est nous-mêmes, c'est nos comportements individuels ou collectifs. Donc ça va se passer dans un espace géographique dans lequel on vit, qui s'appelle un territoire. L'efficacité, essentiellement aussi. Les maisons qu'on a besoin d'isoler, on ne va pas les envoyer en Chine se faire isoler, les ramener. C'est ici qu'elles sont, c'est ici qu'il y a les travaux, c'est ici aussi qu'on peut produire les matériaux pour l'isoler. Enfin, par exemple, les isolants à partir de matière organique de bois, de cellulose, eh bien, ils peuvent être fabriqués ici. Et puis les renouvelables, eh bien, évidemment, le soleil il brille ici, le vent il passe ici, ou ailleurs. Le bois, la biomasse qui est une tout à fait importante, c'est la moitié pratiquement. On peut répondre à nos besoins énergétiques en moitié par la biomasse. Tout ça, ça pousse dans les territoires, etc. Ça passe dans les territoires. Donc c'est aussi le projet de la transition énergétique. C'est pas un projet de retour en arrière, de repli sur soi. C'est le projet de résoudre les problèmes fondamentaux qui sont les besoins d'énergie, parce que, encore une fois, l'énergie, c'est la vie, en partant de ce qui est ancré dans notre territoire, c'est nous-mêmes, les objets qu'on a construits, et puis les ressources naturelles qu'on a autour de nous. Et bien ça, c'est aussi, on parle beaucoup de crise économique, on parle beaucoup de relocalisation, choses comme ça, et bien c'est bien dans ce sens-là qu'il faut aller. Et pas, encore une fois, pas dans un sens de s'enfermer. Le soleil, il brille pour tout le monde, le soleil appartient à l'humanité dans son ensemble, mais en inversant, en quelque sorte, la manière qu'on a de résoudre nos besoins énergétiques, on décrit en fait un développement local, et je pense que l'exemple qui a été pris sur Épinal est tout à fait intéressant, c'est, on ne va pas faire la même chose dans chaque endroit. Donc il faut d'abord bien connaître son territoire, il faut l'aimer, l'apprécier, le connaître très précisément, la partie physique du territoire, la partie humaine aussi évidemment, de façon à faire un diagnostic et puis un plan. Ce qui est en train de se faire dans les villes en France à travers les plans climat-énergie du Grenelle, c'est un premier pas. Simplement, il faudra aller beaucoup, beaucoup plus loin, parce que pour l'instant, les projections s'arrêtent à 2020. Hein, les 3 x 20, c'est en 2020. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut aller à 2050 à 100% d'énergie renouvelable ou quasiment. Et ça, c'est tout à fait possible. C'est une évolution qui aura peut-être des éléments de révolution sur certains aspects, mais qui nous permettra de maintenir, non pas nos modes de vie abrutis, on a une partie de nos modes de vie qui, franchement, on peut se poser la question de à quoi ça sert et où on va avec ça. Par contre, on pourra continuer à vivre entre nous, correctement avec nos propres ressources. Donc oui, les territoires, c'est absolument essentiel. Alors après, on peut décrire les filières. Il y a le photovoltaïque, il y a l'éolien, il y a du high-tech, pour faire vite, qui est l'industrie. Par exemple, le photovoltaïque, c'est une technologie de pointe. On ne peut pas fabriquer des panneaux dans chaque canton de France. C'est des grandes usines, c'est des investissements. Par contre, on met des panneaux solaires partout. Les éoliennes, c'est des grandes usines aussi. Par contre, la biomasse, voilà. En tout cas, l'isolation des bâtiments, tout ça, quand on décrit tout ça, on décrit un monde économique qui est... Il y a beaucoup d'emplois, il y a beaucoup de richesses produites. Et simplement, on ne tue pas les conditions de vie sur Terre avec ça. Donc c'est tout à fait un lien entre ce fameux soleil, hein, qui est, pour joindre avec mon voisin, l'astrophysicien, le soleil qui est quand même la source de notre capacité à vivre sur Terre, eh bien, on a la tête dans les étoiles et les pieds sur Terre, et c'est comme ça qu'on fait notre transition énergétique.
Oui, alors, bon, d'abord, je précise, je ne suis pas astrophysicien. Mon co-auteur est astrophysicien, mais il a pas pu être parmi nous pour aujourd'hui. Moi, ce sur quoi je souhaitais rebondir, c'est vrai qu'en fait, la technologie, certains, notamment sur le photovoltaïque, c'est extrêmement sensible. Et on l'a bien vu, malheureusement, avec les difficultés d'entreprises dont on a entendu parler récemment, PhotoWatt, et peut-être des politiques aussi d'incitation qui ne sont pas vraiment très très bien calibrées au départ, ce qui fait qu'on donne, on défiscalise beaucoup de choses et puis ensuite on change la donne. Donc pour les entreprises, c'est sans doute difficile, et pour le marché en général, de s'adapter à ces changements réglementaires. Alors, évidemment, ce dont je veux parler, c'est les apports technologiques de la recherche spatiale, notamment dans le photovoltaïque. Aujourd'hui, je crois qu'un rendement moyen pour un panneau solaire, ça doit être aux alentours de 8% par rapport à l'énergie...
Non, c'est plus. Oui, c'est plus. C'est, commercialement, c'est entre 17 et 20%. Oui. Attention à la notion de rendement. On transforme l'énergie photovoltaïque, c'est la lumière du soleil. Ça veut dire 20% de rendement, mettons, ça veut dire qu'il y a 20% qui transforme en électricité, mais il y a 80% qui se transforme en rien du tout parce que c'est de la lumière qui fait de mal à personne. Votre voiture, elle a un rendement de 20%, mais les 20% qui vous permettent de rouler, éventuellement vous chauffer l'hiver, les 80% que vous émettez, c'est du gaz à effet de serre, c'est ça qui change la vie sur Terre. Il ne faut pas confondre la notion de rendement quand on est sur du renouvelable, c'est très important.
Alors, en tout cas, en matière spatiale, on arrive, évidemment, ce sont toujours des technologies de pointe qui sont employées, donc on arrive à augmenter ces rendements en dopant les cellules, il y a tout un tas de techniques, mais qui sont vraiment, qu'on ne peut pas encore industrialiser, je dirais, sur une grande échelle, mais il y a vraiment une recherche très active dans ce domaine, puisque dans l'espace, c'est à peu près la seule, ou alors on utilise des générateurs nucléaire, mais c'est justement ce vers quoi on a tendance à ne plus aller. Donc voilà, le soleil est la seule source d'énergie et c'est vraiment, un moteur pour toute la filière, notamment un autre problème qui n'a pas été abordé sur la question du stockage de ces énergies renouvelables, puisque voilà, quand le soleil brille, effectivement, eh bien on a du courant, mais la nuit, c'est plus compliqué. Donc il faut des batteries lithium-ion, là aussi avec de bons rendements, une bonne résilience, qu'il n'y ait pas d'effet mémoire. Tout ça, ça fait l'objet de recherches très, très actives sur le plan, je dirais, de la recherche spatiale. Ce que je trouve intéressant aussi de souligner, c'est que parfois les scientifiques, ils ont un rôle difficile à tenir parce que très souvent, ils sont utilisés en tant qu'experts pour avaliser des décisions qui sont avant tout politiques. Je pense en particulier au choix de la filière nucléaire tel qu'il a été fait, dans notre pays dans les années 60. Et quelque part, on avait tendance, les scientifiques qui étaient commis d'office, je dirais, ou en tout cas qui étaient utilisés pour promouvoir cette filière, eh bien, il y avait certains aspects gênants qu'on leur demandait de mettre sous le tapis, de ne pas trop évoquer. Et ça peut toujours exister, malheureusement, hein, puisque la recherche en France, Alors, c'est très bien qu'elle soit dépendante de financements publics dans son écrasante majorité, mais ça crée aussi des liens de, je dirais, de dépendance qui ne sont pas toujours, qui ne permettent pas toujours d'avoir un, je dirais, un débat véritablement sincère entre les différents intervenants. Donc il faut avoir conscience. Quand vous entendez un scientifique qui vous parle de telle ou telle filière, faut savoir un peu d'où il parle. Voilà, moi je crois que c'est important. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh bien, c'est à peu près tout sur cet aspect scientifique. Mais voilà,
Si je peux me permettre, sur la question du stockage, si on fait 100% d'électricité en photovoltaïque, on a un problème la nuit, c'est clair, il faut stocker. Par contre, ce que je vous ai dit, il y a une diversité, il y a un bouquet d'énergie. Quand il n'y a pas de soleil, il peut y avoir du vent, ou on peut avoir du biogaz qu'on a stocké, etc. Donc la question du stockage, évidemment, est un sujet tout à fait important qu'il va falloir résoudre. Mais ce n'est pas 100% du problème. On sait faire, moi je travaille sur ce qu'on appelle les réseaux intelligents, les smart grids, qu'on aime bien, qui sont très à la mode. Ce n'est pas si compliqué que ça. Il y a déjà, avant d'arriver à des solutions de stockage, qu'il va falloir trouver, encore une fois, mais c'est peut-être 5 ou 10% du problème. Il y a 90% de ce qu'on appelle l'intermittence, ou la variabilité, la fluctuation de ces énergies-là. Il y a du vent quand il y a du vent, et il y a du soleil quand il y a du soleil. On ne peut pas décider. Ça, il y a déjà beaucoup à faire en termes d'organisation, en termes de technologie intelligente sur les réseaux, pour déclencher des consommations, des productions, etc. Donc voilà, oui, le stockage intéressant, important, mais pas si important que ça non plus. Et puis il y a de nouvelles solutions qui arrivent, qui viennent notamment d'Allemagne, sur la transformation de l'électricité en méthane, en fait. Et on peut faire rouler les voitures avec du gaz. Donc ça, c'est expliqué dans le manifeste. Je vous invite à le lire si vous le souhaitez, ou aller sur le site de l'association Negawatt, c'est negawatt.org. C'est un scénario donc, qu'on a développé à 2050 qui tient compte de tous ces éléments-là et de la possibilité réelle. Il ne s'agit pas de faire de la science-fiction, pour le coup. Il s'agit de dire pas à pas, avec ce qu'on sait faire aujourd'hui et ce qu'on est à peu près certain qu'on sera capable de faire dans les 5 à 10 ans qui viennent, parce que l'industrie, la recherche travaillent beaucoup, et bien voilà comment on peut s'y prendre.
Alors sur le rôle du scientifique, donc là, Didier Jamais, vous avez abordé toute la partie recherche à l'heure actuelle sur de nouvelles technologies, mais je souhaitais aussi qu'on aborde le rôle du scientifique, notamment dans son rôle d'alerte et sur les dispositifs que l'on peut mettre en place justement pour essayer d'observer les changements climatiques et de... On a eu comme ça des prévisions un peu contradictoires, des modèles dont on a du mal à savoir s'ils sont fiables ou pas.
Alors bah, effectivement, et là encore, la recherche spatiale, bon, vous aurez compris que c'est un domaine dont je suis un peu spécialiste, a un rôle déterminant à jouer parce qu'effectivement, selon les modèles, vous avez des différences considérables sur, je dirais, la rapidité avec laquelle ce changement va avoir lieu. Et on se rend compte qu'il y a encore énormément de paramètres dont on ne sait pas exactement quelle est l'influence sur les modèles climatiques. Par exemple, savoir si les nuages ou les aérosols, les poussières qui se trouvent en suspension dans l'atmosphère, eh bien, quel est leur rôle dans le bilan global. Est-ce que les nuages ont tendance plutôt à réchauffer la planète ou bien à la refroidir? Enfin, c'est extrêmement complexe, mais c'est vraiment une donnée essentielle de l'équation. Donc, l'observation par satellite, c'est vraiment, et d'ailleurs le CNES en France, le Centre National d'Études Spatiales, joue un rôle primordial là-dedans. C'est vraiment le rôle des institutions scientifiques d'aller, de proposer des solutions pour justement préciser, enfin donner des entrées chiffrées à ces modèles que bâtissent les climatologues pour voir justement où on va aller, parce que ça sert à rien non plus de sombrer dans le catastrophisme, de faire peur aux gens. Je ne pense pas faire peur pour faire aller les gens dans une direction. Moi, je trouve que c'est une politique qui m'en rappelle d'autres et qui me fait un peu peur moi-même. Donc, je crois qu'il faut vraiment avoir un discours de responsabilité, dire que c'est compliqué. Effectivement, le rôle des sociétés humaines dans le réchauffement, je crois qu'à part quelques cas très particuliers sur lesquels on ne va pas s'attarder, eh bien, plus personne ne le conteste. Mais maintenant, il faut quand même savoir de quoi on parle quant aux impacts, effectivement, à 2050, à 2100, parce que, même si nous ne serons pas forcément là pour le voir, eh bien, c'est l'avenir de l'humanité, de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc, il y a un rôle des scientifiques à jouer, mais là encore, aussi voir toujours d'où ils parlent, quels sont les intérêts peut-être qu'il y a derrière, et vraiment interpeller les politiques, si je puis me permettre, monsieur Heinrich, sur le fait que, il faut... comment est-ce qu'on fait intervenir les scientifiques et comment on les écoute et comment on diffuse leurs travaux?
Je ne répondrai pas directement à cette question, mais je dirais par rapport à ce que vous avez dit, aujourd'hui il ne faut pas faire peur. Moi j'ai vraiment le sentiment qu'aujourd'hui nos concitoyens n'ont plus peur du tout, n'ont pas peur du tout, mais ils sont passionnés par ces problématiques. Il y a une prise de conscience absolument fantastique en 10 ans, que je trouve tout à fait extraordinaire. Et dans notre propre comportement d'élu à l'échelle d'une collectivité et d'une ville, aujourd'hui, nous arrivons, parce que nous avons été sensibilisés à ces problématiques, nous arrivons à construire aujourd'hui des logements, HLM par exemple, un T2 ou un T3, dans lequel, pour le même prix qu'auparavant, et dans lequel le coût de l'énergie annuel, hors location du compteur, est de 150 à 200 euros. Et le logement ne coûte pas plus cher. C'est ça qui est important, je crois, à souligner. Donc on a simplement fait preuve d'intelligence, de réflexion, et on a été un peu plus responsable dans notre façon de faire. Et je crois qu'aujourd'hui, la population, nos concitoyens, nous sommes tous très à l'écoute de ce que disent les scientifiques, mais il y a une véritable mobilisation et sensibilisation. Et moi, je trouve que c'est une opportunité fantastique pour notre génération et celle à venir. Je crois qu'on va vivre quelque chose d'absolument extraordinaire et d'enthousiasmant, et on ne le dit pas assez. Mais quand on voit la rapidité du progrès scientifique, on a pris conscience qu'on ne pouvait plus continuer à se comporter en irresponsable, comme nous l'avons fait. C'était trop facile. Alors, en fait, ce qui nous a sensibilisés, c'est l'argent, c'est le coût de l'énergie. Je crois que si l'énergie fossile avait été... si on en avait un stock absolument gigantesque et qui ne prendrait jamais fin et qui ne coûterait rien, on aurait beaucoup plus de mal à nous sensibiliser. Il y avait le discours, certes, des scientifiques, qui n'est pas nouveau, mais ce qui a été vraiment le vrai levier, c'est le coût. Le coût, et puis sachant aussi qu'on arrive un jour à la fin, à l'extinction de cette réserve énergétique.
Alors, je voulais poursuivre par une autre question, Michel Henrich, sur justement la sensibilisation des populations. Et notamment, si on regarde au niveau national, on a eu le Grenelle de l'environnement avec un accent fort mis sur ces problématiques. Et puis, plus récemment, on a eu la crise à laquelle il a fallu faire face. Et lorsqu'on est un élu, justement, aux commandes d'une collectivité, on doit gérer beaucoup de choses. Et parfois, il peut y avoir des priorités à installer. Et est-ce que vous avez eu la sensation, parce qu'il y a eu cette peur à un moment donné de dire, oulala, avec la crise, on va un peu oublier tous ces accords, tout ce Grenelle de l'environnement, parce que le chômage, sauver les entreprises, soutenir l'économie. Est-ce que vous avez la sensation qu'on peut arriver à faire ça tout en continuant à mettre l'accent justement sur l'évolution énergétique, le développement durable et faire que la population suive?
Oui, je crois que ça a été déjà évoqué par l'un et par l'autre. Je crois que cette prise de conscience n'a pas disparu durant la crise. Bien au contraire, je crois que c'est une opportunité fantastique de développement économique et d'un développement responsable et durable. Donc c'est plutôt une opportunité qu'il faut saisir. Sur un territoire comme le nôtre, nous avons essayé de le saisir. Alors, on a, et je crois qu'on n'est pas les seuls à y repenser, si j'observe ce qui se passe autour de nous. Mais moi, je suis intimement persuadé que oui, au contraire, c'est une opportunité en période de crise, une nouvelle façon de considérer les choses et finalement d'arriver aussi à une qualité de vie sensiblement améliorée en développant une économie qui n'est pas délocalisable, ou du moins en partie pas délocalisable.
Il faut prendre conscience qu'on parle de crise, mais la balance commerciale de la France est déficitaire de 70 milliards d'euros par an. Oui. Sur ces 70 milliards d'euros, il y a 60 milliards d'euros, c'est du pétrole et du gaz qu'on importe. Donc on a déjà là une ressource économique. Si on arrête d'importer ou on diminue nos importations, on va dire toujours au lendemain, mais si on rentre dans un processus de diminution des importations, ben voilà, on résout la crise en quelque sorte, une grande partie de cette crise-là, avec un développement local, des emplois, etc., plutôt que d'aller payer les monarchies pétrolières ou le gaz de M. Poutine, eh bien, on le met dans les emplois locaux pour le développement local, et on s'en sort beaucoup mieux. D'ailleurs, les pays qui ont été plus vite que nous dans la transition énergétique, on observera qu'ils s'en sortent quand même un petit peu mieux face à la crise. Nos voisins allemands, notamment, il y en a l'Autriche, le Danemark, etc. Donc voilà, quelque chose, à mon avis, qui, je l'ai dit, je le redis, c'est pas quelque chose de défensif, et c'est pas, on y a pensé, c'était un rêve d'écolo argenté de parler de ça avant la crise, et puis comme il y a la crise, on n'en parle plus. C'est exactement l'inverse. C'est parce qu'il y a la crise qu'il faut y aller, et le plus vite possible, parce que c'est là que se trouve la solution.
Alors, puisqu'on est sur un salon qui est quand même un petit peu axé sur l'imaginaire et l'image, et Épinal connu bien évidemment pour ses images d'Épinal, Michel André, je voudrais que vous parliez un petit peu de ce qui a été réalisé justement sur l'imagerie d'Épinal avec l'image dédiée au plan climat. J'ai entendu dire qu'effectivement, on avait quelque chose qui était fait dans ce sens.
Oui, effectivement, c'est une... je l'ai dit, on a entrepris beaucoup d'actions de communication et de sensibilisation du public, donc on s'est effectivement servi de notre imagerie locale pour éditer une image sur le plan climat, que vous devez avoir là, près de vous, je crois, et qui sensibilise, qui est donc largement diffusée sur le territoire et au-delà, pour sensibiliser la population à ces problématiques.
Je tiens à dire, ma présence ici, elle est peut-être incongrue, mais c'est très important pour nous que tout ce qui est la culture, l'histoire de la culture, en plus l'image d'Épinal n'est pas aujourd'hui, et bien c'est important qu'il y ait une compréhension, parce que c'est une évolution culturelle. Il y a la technologie, il y a l'économie, il y a le social, il y a l'emploi, etc. Mais on y arrivera, à cette transition énergétique, qu'à une seule condition, c'est que ça devienne une évolution culturelle aussi. Donc on a vraiment besoin des milieux artistiques, on a besoin des milieux culturels, de toutes les formes d'art, doivent, alors c'est pas pour donner des leçons, réhabiller, c'est parce que ça doit devenir un fonds culturel, cette démarche, qu'on appelle la démarche négawatt, alors on a des mots pour le dire, mais en tout cas c'est quelque chose qui est dehors des citoyennetés, et qui donc doit passer par l'éducation et tout ce qui est autour.
Et je voudrais dire que la sensibilisation du jeune public est absolument, elle est facile, et elle a un résultat extraordinaire, parce qu'elle a des répercussions immédiates sur le comportement des adultes. Mais vraiment, le jeune public est un vecteur fantastique de communication et de sensibilisation, et qui permet d'arriver à des comportements meilleurs, améliorés, en tous les cas différents.
Alors, je vais y aller aussi de ma petite justification de ma présence ici en tant que journaliste scientifique sur un festival de l'imaginaire, mais en fait, c'est tout à fait évident que l'imagination joue un rôle essentiel dans la recherche scientifique. Einstein lui-même disait que l'imagination était plus importante que la connaissance, hein, qu'il fallait. Et lui-même en a donné l'exemple en fait en réalisant ce qu'il appelait des expériences de pensée, où il s'imaginait chevauchant un rayon de lumière. Moi, je vois pas d'idée plus poétique que celle-là et plus fantastique quelque part. Donc voilà, science et imaginaire, ça n'est absolument pas incompatible. C'est même très souvent de l'un que découlent les idées qui se révèlent fécondes dans l'autre domaine, dans le domaine scientifique. Donc voilà, donc je me sens bien ici.
Voilà, bah écoutez, c'est un petit peu ce qui va nous servir de conclusion. Donc science et imaginaire, œuvrant vers des comportements plus raisonnables, vers une meilleure sensibilisation du public, et notamment une sensibilisation de chaque individu à ces problématiques. Je remercie nos intervenants pour les idées qu'ils ont échangées et qui nous ont permis de mieux creuser ces problèmes-là. Je vous invite à rencontrer Didier Jeannet sous la bulle du livre, en dédicace, à des moments divers et variés, au stand des libraires. Je vous invite également très fortement à aller visiter le petit stand Climaginal, où il y a toute une animation qui est faite sur cette thématique de ce monde zéro carbone, et qui est donc tenue par Marc Jedlicka et ses collègues. Et enfin, merci beaucoup Michel Henrich pour votre participation. Merci pour votre attention.
Merci. En 12 ans, développer, créer, faire venir 50 personnes autour de
l'économie. C'est pas facile d'arriver à articuler.